Frère de Beauregard, de prénom Jean-Thomas, vous avez étudié les sciences politiques, puis avez pris la voie tracée par Dominique pour attiser le feu quand vous, Dieu, alluma. Votre thèse de l'Église, sacrement du royaume, vous allez dans un mois en Suisse la présenter. Bonne soirée à tous sur Radio Liberté. C'était Talaxandrin en direct par Guillaume.
Alors, vous m'avez demandé de vous parler de la liberté chez saint Thomas d'Aquin. Je me permets par ailleurs moi aussi de faire mon instant de publicité. Ça, c'est mon dernier livre. Il se trouve partout au prix modique de 18 euros. Il n'a rien à voir avec le sujet de ce soir, mais il est vraiment très bien aussi. Ça c'est parce que je suis passé au cerf tout à l'heure et si je vous avais pas fait ça, je crois qu'il m'en aurait voulu. Donc, la liberté chez saint Thomas d'Aquin. Et d'abord, commençons par, non pas le commencement mais la fin. Parce que à la fin de sa vie, alors que Thomas d'Aquin prie à genoux devant un crucifix, dans un épisode digne des meilleurs Don Camillo, le Christ lui adresse la parole depuis le crucifix et lui dit « Tu as bien écrit de moi, Thomas, que veux-tu en retour ?» Et Thomas de répondre « Rien d'autre que toi, Seigneur. » Il est d'ailleurs exaucé quelques mois plus tard, puisque en chemin vers le Concile de Lyon, où il est appelé comme expert théologique, Thomas meurt le 7 mars 1274 à 49 ans, rejoignant ainsi ce Seigneur qu'il avait choisi comme la seule récompense du labeur de toute une vie consacrée à l'étude. Et pourquoi je vous rappelle ce petit récit, qui est vrai, c'est parce qu'il nous permet de situer notre propos sur la liberté chez saint Thomas d'Aquin à la hauteur requise, c'est-à-dire dans le projet de Dieu sur ses créatures. Dieu qui a tout créé et qui est la fin de toute chose, veut que chaque créature s'ordonne à lui. Mais à l'homme, créature rationnelle, il demande de s'ordonner à lui rationnellement et non pas instinctivement ou de manière déterminée. Quand je dis de manière déterminée, c'est sous le rapport de la nécessité, pas sous le rapport de « il y va, il est déter », etc. Non. Depuis la croix par laquelle il relève la liberté humaine blessée par le péché, le Fils de Dieu interroge Thomas sur le bien qu'il désire par-dessus tout, et en l'occurrence, par-delà tous les biens limités sur lesquels le libre arbitre peut porter son choix, Thomas choisit le bien ultime, Dieu lui-même. L'enjeu, c'est donc la béatitude, cette vie éternelle de bonheur dans l'intimité de la Sainte Trinité et la compagnie des saints, et ce n'est pas fortuit. Vous le savez peut-être, saint Thomas construit la prima secundae de la somme de théologie, c'est en fait la section qu'on appellerait aujourd'hui de morale fondamentale, il l'a construit à partir du traité de la béatitude, puis la grâce, puis les vertus. Là où d'autres auraient probablement commencé le traité de morale fondamentale par la loi, l'obligation, le devoir, ou bien alors le péché, ou même la liberté conçue comme un en soi. Non, saint Thomas commence par la béatitude. Les théologiens et philosophes postérieurs iront massivement dans le sens de commencer un traité de morale par la loi, l'obligation, le devoir, le péché ou la liberté. C'est pas le cas de saint Thomas. Thomas d'Aquin envisage d'abord la morale du point de vue de sa finalité, qu'est la béatitude. Ce qui soulève une question préalable à notre propos sur la liberté. Et la question est la suivante, pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé l'homme et l'ange d'emblée dans la béatitude? Ça aurait quand même été vachement plus simple. Pourquoi? Pourquoi? Parce que une béatitude reçue d'autrui, et donc impliquant une dépendance radicale, ne saurait être forcée. Vous le savez, Satan a d'ailleurs préféré refuser la béatitude précisément en tant qu'elle lui était offerte comme reçue et en tant qu'elle entérinait une dépendance radicale à l'égard de Dieu. Autrement dit, la béatitude que propose Dieu, il convient qu'elle soit librement voulue par un acte de charité. En vue de la béatitude, la créature, ange ou homme, choisit Dieu par un acte d'amour, de préférence à tout le reste, y compris de préférence à son indépendance. La comparaison avec l'ange est instructive. Dans l'instant qui succède immédiatement sa création, l'ange se prononce pour ou contre Dieu, en un seul instant. Et parce qu'il est un pur esprit et doté d'une intelligence supérieure, son choix est définitif, irréversible. De telle sorte que s'il se prononce pour Dieu, il est jusqu'au bout et pour l'éternité un ange bon, et s'il se prononce contre Dieu, il est jusqu'au bout et pour l'éternité un démon. D'accord ? Les démons sont des anges déchus, comme vous le savez, mais anges néanmoins. Pour les hommes, c'est différent. Notre choix préférentiel de Dieu se monnaie en une multitude d'actes successifs qui font de notre vie terrestre un chemin progressif vers la vie éternelle. Chemin qui n'est d'ailleurs pas parfaitement linéaire, puisqu'il peut supporter des écarts, des retours en arrière, mais aussi, moyennant la grâce, des progrès quand même, et espérons-le, des conversions. D'accord ? Si vous voulez, pour prendre une image, l'ange est comme le marbre. Le marbre, c'est un matériau magnifique, c'est vrai, mais qui, une fois que le sculpteur lui a donné sa forme, ne peut en changer sans en être du même coup brisé. L'homme, lui, serait plutôt comme de la pâte à modeler, un matériau un peu plus grossier, surtout à l'usage des enfants. Et l'avantage, c'est que si la première forme est ratée, on peut recommencer un très grand nombre de fois. Il ne faut pas en abuser, parce que même la pâte à modeler s'use entre durcissement et effritement et finit par être moins malléable. Autrement dit, notre liberté est façonnée par nos choix successifs qui créent des habitus, en bien ou en mal. Mais enfin, on peut rater et recommencer pas mal de fois. Et le sculpteur divin, moyennant notre liberté, façonne progressivement un chef-d'œuvre de sainteté. Mais chez nous, ça se fait dans le temps. En fait, c'est très cohérent avec le fait que, pour l'homme, sa vie morale, l'exercice de l'intelligence et de la volonté, se déploie dans un corps. Et dès lors, elle est soumise au devenir, à la temporalité. Et puis, par ailleurs, elle ne dépend pas seulement de ses facultés spirituelles, de sa volonté et de son intelligence, mais aussi de ses facultés sensibles et même de sa physiologie. Si vous voulez, à l'inverse de l'ange, qui est d'emblée un produit fini, apte à poser le choix de sa fin dernière, l'homme doit grandir en maturité physiologique, psychologique et morale, et puis il doit compter avec ses appétits sensibles et leurs passions. S'y ajoute un certain nombre de conditionnements, depuis l'hérédité, l'éducation, jusqu'au choix passé de la personne. Autrement dit, l'exercice de la liberté en l'homme est toujours conditionné, sans être jamais déterminé. Il est conditionné au point que l'imputabilité, c'est-à-dire le fait qu'on puisse tenir l'homme pour responsable de ses actes, l'imputabilité de ses actes est chez l'homme parfois très atténuée. Et en tout cas, même quand elle est peu atténuée, elle est toujours difficile à discerner. Qu'est-ce qui relève vraiment de son intelligence et de la volonté? Et qu'est-ce qui relève d'une intelligence et d'une volonté tellement à ce point conditionnée par une histoire complexe, par des passions, par la physiologie, par etc., etc. C'est assez difficile à discerner. C'est tout l'enjeu, d'une certaine manière, de la confession et de l'art du confesseur que de discerner ça. Et tout l'enjeu, pour, de votre côté, de l'examen de conscience. La comparaison avec le péché de l'ange est assez éclairante, parce que, au fond, le péché de Satan, c'est un péché chimiquement pur, qu'aucune circonstance atténuante ne peut excuser. Il n'y a pas chez Satan d'immaturité psychique, il n'y a pas chez Satan de névrose, d'enfance malheureuse, il n'y a pas de manque de lucidité sur la portée de son choix, ni même influence d'un tentateur, puisque par hypothèse il était le premier du genre et qu'avant lui il n'y en avait pas de tentateur. Bon. Chez l'homme, en revanche, il en va rarement ainsi. Nos actes humains, et seuls d'une certaine manière nos actes vraiment libres méritent le nom d'actes humains, mais à la limite on pourrait y revenir, nos actes humains ne procèdent pas du simple jeu abstrait de notre intelligence et de notre volonté. Ils mobilisent notre imagination, notre mémoire, nos passions, lesquelles sont structurées au cours d'une histoire complexe qui vient conditionner tel ou tel acte libre que nous posons à un instant donné. Ça va jusque-là ou pas? Ça va pas trop vite? Non? Bon, c'est bien. Alors, venons-en à la question de la volonté et de l'acte libre. Au rebours de l'usage courant, la volonté n'est pas d'abord, pour Thomas, une force d'âme qui permet de vaincre les obstacles extérieurs ou les résistances intérieures à telle décision. Vous savez, c'est un petit peu, quand on pense à la volonté, aujourd'hui, grosso modo, on serre les fesses, quoi. Je le dis de manière triviale, mais c'est un petit peu ça. C'est quand même beaucoup dans la ligne de l'effort, de l'irascible et de la discipline. Or, chez Thomas, ça n'est pas tout à fait ça. La volonté chez Thomas procède fondamentalement d'un désir. C'est dans la force de ce désir que je puise, le cas échéant, l'énergie nécessaire pour fournir l'effort ou le combat exigé par la difficulté de l'action. Mais ce qui est premier, c'est le désir. Au fond, pour le dire d'une formule, si la volonté lutte, c'est d'abord parce qu'elle aime. La volonté est d'abord une amoureuse. Elle est une capacité de s'attacher à un objet ou à un projet parce qu'elle en a éprouvé la valeur, parce qu'elle en a éprouvé la bonté. La volonté, de ce point de vue-là, est un appétit rationnel qui peut d'ailleurs combattre certains appétits sensibles lorsqu'ils s'opposent au bien envisagé. Et en tant que rationnel, et c'est peut-être ça qui est crucial, la volonté est capable de prendre en considération le bien total, par-delà les biens sensibles limités auxquels s'en tiennent les passions de l'appétit sensible. Je vais développer un petit peu ça, vous inquiétez pas si pour l'instant c'est du jus de boudin pour certains d'entre vous. Parce que l'ennui des appétits sensibles, même s'ils nous sont bien utiles par ailleurs, c'est qu'ils sont enracinés dans le physiologique. Et dès lors, notre vie affective sensible dépend pour une part non négligeable de l'état de notre physiologie. Qui ne sait parmi vous combien jouent dans votre acte moral à un instant donné les hormones, la maladie, la fatigue, le manque de sommeil, le cas échéant l'alcool, ou pire. Or, notre affectivité sensible, à l'instar des sens dont elle dépend, ne peut pas s'élever jusqu'au bien universel. L'affectivité sensible, l'appétit sensible, il n'est réceptif qu'à certains aspects sensibles et en fait accidentels des biens particuliers, selon un registre en fait essentiellement hédoniste. Je m'explique, pour l'appétit sensible, est bonne cette chose-ci qui m'est agréable, est mauvaise cette chose-là qui m'est désagréable. Ce qui met en mouvement l'appétit sensible, ce n'est pas la réalité objective du bien comme tel, mais seulement une manifestation sensible accidentelle d'un bien particulier, jaugé à l'aune de l'agrément qu'il me procure. Et parce que l'affectivité sensible ne perçoit que le bien particulier, elle est dans l'incapacité d'opérer un recul critique par rapport au bien qui la sollicite. L'animal, parce qu'il n'a pas d'intellect, et donc d'appétit rationnel, en reste là. Il ne peut pas opérer ce recul critique par rapport au bien qui le sollicite au niveau de l'appétit sensible. Nous, les hommes, j'ai l'impression de faire une pub ménène, nous les hommes. Pour l'homme, le rôle de l'éducation et de la culture vertueuse sera justement de réaliser, autant que faire se peut, la synergie harmonieuse du sensible et du spirituel, de faire converger d'une certaine manière les appétits sensibles avec le tri qu'opère l'appétit rationnel. Mais ce qui est intéressant, et ce à quoi on ne pense pas souvent, c'est que l'éducation et la culture vertueuse, elle ne visera pas seulement à rationaliser ce que nous apporte l'appétit sensible, elle visera aussi, d'une certaine manière, à sensibiliser ce que nous apporte la rationalité, c'est-à-dire à mettre en branle aussi toute notre affectivité et toutes nos passions pour que l'acte moral soit porté par tout notre être, et pas seulement notre intellect et notre volonté. Nous ne sommes pas des purs esprits. Ça va, ça ? Autrement dit, tout comme l'intelligence a besoin des sens pour s'exercer, la volonté requiert, elle aussi, tout un arsenal d'appétits sensibles, de passions, sinon pour produire son acte intérieur, du moins pour exécuter au dehors l'action voulue lorsqu'elle requiert un mouvement corporel, ce qui est quand même assez souvent le cas. Pourtant, la volonté jouit d'une réelle autonomie par rapport aux appétits sensibles, d'où son pouvoir de résister ou de s'opposer le cas échéant aux passions. Encore une fois, d'une certaine manière, je ne fais que répéter, mais pour que ça rentre, ce que j'ai déjà dit, cette indépendance de la volonté par rapport aux passions et son pouvoir de se soustraire à l'attrait des biens particuliers, tient au fait qu'elle tend naturellement au bien universel, de telle sorte que l'attrait du bien particulier ne l'atteint plus directement, mais seulement après avoir été relativisé par sa confrontation au bien universel. Et c'est ici que se situe le fondement du libre arbitre. Ça, c'est un peu en amont, du point de vue métaphysique, si vous voulez. Comme fondation du libre arbitre, c'est encore une fois le fait que la volonté, elle tend vers le bien universel, et que parce que il y a une raison qui lui permet de relativiser les biens particuliers, elle va pouvoir choisir entre différents biens particuliers celui qui leur donne le mieux au bien universel qu'elle vise par ailleurs comme fin. Ça va, ça ? Mais Thomas d'Aquin dit aussi souvent, pour partir d'un autre point de vue que d'un point de vue métaphysique, qu'on est obligé d'affirmer le libre arbitre, notamment contre une vision déterministe ou nécessitante de l'agir humain. Je vous signale que la philosophie arabe averroïste, notamment relisant Aristote et le modifiant un petit peu, mais ça se trouve déjà chez Aristote, jusqu'à aujourd'hui, une bonne part de la philosophie morale est en réalité déterministe et promeut une vision nécessitante ou nécessitariste, je ne sais pas comment dire, de l'agir humain. Mais saint Thomas nous dit, on est obligé d'affirmer le libre arbitre contre cela, parce que sans ça, en réalité, on ruine toute vie morale et toute vie sociale. Parce qu'alors, il n'y a plus ni blâme ni louange au plan naturel, ni mérite ou démérite au plan surnaturel. Et ça peut paraître, d'une certaine manière, un argument faible, mais chez saint Thomas, il y a souvent ce type d'argument, que moi je ne trouve pas si faible que ça, par les conséquences. C'est-à-dire, grosso modo, ce qu'il dit souvent à ses adversaires, c'est « Très bien, regardez où ça vous mène si vous allez dans cette logique-là ». Là, il le dit à propos d'une vision nécessitante de l'agir humain, mais il dit la même chose, par exemple, à ceux qui mettraient en cause la capacité de l'intelligence à atteindre la vérité ou la capacité du langage à dire le vrai. Il donne des arguments en amont sur le fond, mais il donne aussi des arguments en aval en disant « Mais en fait, même vous, vous y croyez pas. » Déjà parce que vous vous exprimez, pour le dire. Donc en fait, vous êtes gentil, mais coucou, je panier. dit-il en latin et un peu différemment. Mais, de manière métaphysique, malgré tout, le libre arbitre, selon Thomas, procède surtout de ce que la volonté tend par nature et donc nécessairement au bien absolu et sans limite. Ça, c'est une affirmation qu'il reprend d'Aristote. Le bien, c'est ce que tous désirent, et fondamentalement, tous les hommes désirent le bonheur, donc le bien absolu et sans limite, le souverain bien. Or, tout ce que la raison présente à la volonté, à juste titre ou non, comme un bien, ne peut être qu'un bien particulier, et à ce titre limité, relatif. Et donc, encore une fois, parce qu'elle est déterminée à vouloir le bien total, même si elle n'en a pas conscience, la volonté peut instaurer une distance critique par rapport aux différents biens particuliers, forcément limités, qui la sollicitent. Si forte que soit la séduction exercée par un bien particulier, la volonté peut la relativiser affectivement et donc s'y soustraire. C'est ça le fondement, si vous voulez, métaphysique du libre-arbitre. D'accord ? Et c'est là que c'est intéressant, parce que dans chaque objet séduisant qui nous sollicite à un titre ou à un autre, il y a toujours un aspect sous lequel il est bon, sans quoi cet objet ne nous attirerait pas. Bon. Ça, c'est l'évidence. Et c'est ce qui fonde en réalité la possibilité du péché, qui est toujours commis au moins un peu sous la raison de bien. Je veux dire que jamais nous ne commettons le péché sans le considérer au moins un peu sous une certaine raison de bien, qui peut être fallacieuse, qui peut être seulement un certain bien, alors que par ailleurs on sait que moralement c'est mauvais, mais on ne pêche jamais que en raison d'un certain bien que nous y avons perçu. Je vais être trivial, mais même un assassin ou un violeur le fait pour un bien fallacieux, mais parce qu'il y voit un bien pour lui à cet instant, d'accord ? Sinon il ne le ferait pas. Tous nos actes de volonté sont toujours mus par un certain bien perçu comme tel à un instant donné. Mais le bien présenté comporte toujours aussi un aspect selon lequel il n'est pas entièrement comblant. C'est ce qui permet à la volonté, grâce à l'intelligence, encore une fois, de prendre ce recul affectif par rapport à ce bien. Elle pourra le vouloir ou ne pas le vouloir, ou lui en préférer un autre. Et ce pouvoir de dominer l'attrait qu'exercent sur nous les biens particuliers, c'est ce qu'on appelle dans la tradition issue de saint Thomas l'indifférence dominatrice. L'indifférence dominatrice, qui n'est pas l'attitude psychologique de « moi à l'égard de vous », l'indifférence dominatrice. Il faut le prendre au plan métaphysique et d'ailleurs pas du tout au plan psychologique, parce que, attention, face à un choix à opérer, il est très rare que la volonté soit psychologiquement ou moralement neutre face au bien qui la sollicite. Ça, il faut être Kant ou un abruti pour le penser. Je dis ça évidemment pour provoquer. Pour penser qu'on arrive face à un choix de manière totalement neutre et sans notre histoire personnelle, sans nos passions, sans machin, etc. Mais si forte encore une fois que soit la séduction exercée par un bien créé, la volonté conserve en principe le pouvoir de l'éprouver comme un bien seulement relatif, de sorte que ce bien ne nécessitera jamais son acte. Et c'est ça l'idée d'indifférence dominatrice, c'est que c'est pas qu'il y a une indifférence psychologique, mais c'est que le bien n'exerce pas un attrait à ce point nécessitant que cela force notre choix dans une direction donnée. La volonté est indifférente en ce qu'elle domine suffisamment l'attrait de ce bien-là pour pouvoir s'y soustraire. Bon, bien évidemment, vous vous en rendez compte sur vous-même, cette liberté se réalise plus ou moins parfaitement selon les personnes, du fait de leurs choix antérieurs, mais aussi des divers conditionnements qui pèsent sur eux. Tous les hommes ne sont pas également en mesure de dominer leurs impulsions. Reste que tout homme a le pouvoir radical d'y résister, si ténu soit-il. Ça va, ça ? Ouais. J'ai un peu traîné sur ce truc-là, mais pour que ça, parce que c'est quand même essentiel. Maintenant, j'aborde la question du fait que le libre arbitre, selon saint Thomas, s'accomplit dans l'acte du choix. Ça, c'est capital. C'est vraiment au moment du choix que le libre arbitre donne sa vraie mesure. Souvent, c'est un peu la conception contemporaine, on croit que l'homme n'est libre que jusqu'au moment où il se détermine par son choix. Et donc, à la limite, pour rester libre, il devrait se maintenir le plus longtemps possible dans cette indétermination en s'abstenant de choisir. D'où la difficulté contemporaine à s'engager, par exemple dans le mariage ou dans la consécration religieuse, ou quelque engagement un peu important que ce soit. On voudrait pouvoir se maintenir le plus longtemps possible tout l'éventail des choix possibles devant nous, et on a l'impression illusoire que ce faisant on reste libre. C'est exactement l'inverse qui est vrai. En réalité, le cœur humain est esclave d'un trop grand éventail de choix possibles s'il ne s'oriente pas au bout d'un moment dans une direction donnée. En réalité, la liberté grandit par le choix posé, en particulier si le choix est bon. Le libre arbitre s'accomplit donc dans la décision de trancher entre divers biens attrayants. Or, la volonté, on l'a vu, décide en fonction du jugement de l'intellect pratique. Est-ce à dire que le jugement de la raison déterminerait l'acte de la volonté ? Autrement dit, la volonté va-t-elle forcément choisir ce que le jugement de la raison lui présente comme le meilleur ? En un sens, oui, mais il faut bien comprendre. Parce que l'expérience montre qu'on peut très bien agir contre un jugement de la raison en choisissant ce que pourtant la raison affirme être un mal, ou à l'inverse, en refusant d'accomplir le bien que la raison prescrit. Mais même lorsqu'elle refuse de se conformer aux directives de la raison droite, la volonté ne s'en conforme pas moins à un certain jugement de la raison. Par exemple, pour décider de s'enivrer, de se bourrer la gueule, la volonté doit disposer de concepts relatifs à l'ivresse, à l'alcool, aux moyens de s'en procurer. Mais surtout, la volonté doit pouvoir s'appuyer sur un certain jugement rationnel qui énonce que c'est une bonne chose ici et maintenant de se bourrer la gueule, quand bien même cette appréciation rationnelle serait moralement déviante. Quoi que la volonté choisisse, elle le fait toujours pour des motifs rationnels, qui peuvent être des motifs rationnels ultra conditionnés et notamment vraiment que pour cet instant-là, à cette personne-là, etc., et faux d'une certaine manière, mais elle le fait pour des motifs rationnels. S'il n'y avait pas de motifs rationnels, la volonté ne le ferait pas. D'accord ? Et typiquement, le motif rationnel, ça peut être « bah j'ai envie d'oublier, je suis fatigué, j'ai machin, etc. C'est pas bien grave, etc. » La rationalisation ante et post-peccatum, c'est quand même la spécialité du chrétien. De trouver toutes les bonnes raisons qu'on avait de faire de la merde. Pour le dire encore une fois de manière triviale, je suis désolé, je suis souvent fatigué quand je suis vulgaire. Non, l'inverse. Enfin, du coup, ça resterait dans l'autre sens. Ça va, ça ? Alors, maintenant, j'aimerais, avec vous et avec saint Thomas, distinguer le libre arbitre et la liberté, et plus exactement, la liberté de perfection. Pour résumer un petit peu ce que l'on a vu jusque-là, avoir le libre arbitre, c'est être cause de ses décisions, jouir de la capacité de choisir une chose de préférence à une autre, sans que ce choix soit nécessité par une cause extérieure, l'influence d'un agent extérieur ou des circonstances, ou par une cause intérieure, les tendances ou la psychologie de l'agent. D'accord ? C'est ça, avoir le libre arbitre. Exercer le libre arbitre, c'est un peu différent. Exercer le libre arbitre, c'est poser un acte de telle sorte que, au moment où la volonté décide de poser tel acte, elle aurait pu tout aussi bien choisir de ne pas le poser ou d'en poser un autre. Il n'y a donc de libre arbitre que là où peut s'opérer soit un choix entre l'action et l'abstention, c'est ce qu'on appelle la liberté d'exercice dans la tradition issue de saint Thomas d'Aquin, donc choisir d'exercer ou pas ma liberté en agissant ou en n'agissant pas, soit un choix entre plusieurs actions possibles, et c'est ce qu'on appelle dans la tradition issue de saint Thomas d'Aquin la liberté de spécification, spécifiée par son objet, si vous voulez. D'accord ? Je choisis de faire ceci ou cela. Donc, d'un côté, je choisis d'agir ou de ne pas agir, liberté d'exercice, et de l'autre côté, je choisis de faire ceci ou cela, liberté de spécification. Mais attention, donc ça, on est dans le libre-arbitre, même si là, à l'instant, je l'ai appelé liberté. Le libre-arbitre n'est pas à lui-même sa propre fin. On n'est pas libre pour être libre, ou pour affirmer sa subjectivité, ce qui serait... La conception foucaldienne, pour aller très très rapidement, de la liberté. Au fond, la liberté, c'est la création de soi par soi, et je sculpte mon petit ego, je le polis, et je me regarde dans la glace pour voir à quel point c'est magnifique et ma subjectivité s'exprime ainsi. C'est extrêmement caricatural, je le confesse, mais il y a quelque chose de ça. Non, la liberté, elle n'est pas faite pour affirmer sa subjectivité ou pour elle-même, pour être libre, elle est faite pour s'orienter par soi-même en direction du bien absolu dans lequel on trouve son parfait accomplissement. Ça, c'est capital. Et là, on arrive vers la liberté dite de perfection, c'est-à-dire une liberté qui s'accomplit dans le bien, qui n'est pas dans une neutralité axiologique par rapport au bien ou au mal, et qui s'exprimerait indifféremment dans le bien ou dans le mal, où ce serait un bon exercice de la liberté dans les deux cas. Non, pour saint Thomas, pas du tout. La liberté de perfection exige que ce soit un bien réel qui est poursuivi. L'homme, d'ailleurs, chez saint Thomas, n'est pas tellement libre quant à sa fin ultime. Je m'explique. La fin ultime, pour tous, c'est le bonheur. Que tous nous désirons de manière nécessaire. Alors... Ce qui repousse, si je puis dire, d'un étage le problème, c'est que le contenu du bonheur, en revanche, n'est pas évident. Ce qui nous laisse toute liberté pour nous orienter vers tel bonheur plutôt que tel autre, en fonction de ce qu'on mettra comme contenu au bonheur que nous poursuivons. Mais quant à la finalité qui est le bonheur, celle-là, d'une certaine manière, elle nous est imposée, elle est nécessaire. En tout cas, elle s'impose plutôt qu'elle nous est imposée. Le libre arbitre, de ce point de vue-là, ne porte pas sur la fin ultime, mais seulement sur les moyens qui permettent de l'atteindre. En latin, c'est « ea qui sunt ad finem ». Ce qui est mieux que moyen, parce que parfois, mais bon, en français c'est difficile de traduire autrement, mais parfois le terme de moyen peut être un peu trompeur pour ça. Lorsque l'homme jouit de l'évidence du bien absolu, il n'est pas libre de choisir une autre fin dernière que Dieu. C'est le cas pour le bienheureux. Le bienheureux, il est fixé en Dieu, il a l'évidence du bien absolu qu'il contemple, et donc dès lors, il n'a plus le libre arbitre, au moins sous le rapport où il ne peut plus choisir de pécher. Tous ses actes, tous ses choix au bienheureux sont forcément droits, immanquablement bons. Cela dit, la volonté du bienheureux, même ainsi fixée en Dieu, elle ne perd pas tout usage du libre arbitre. Pourquoi ? Parce que même là, même dans la béatitude, il n'existe pas une seule manière, une unique manière de bien agir. Il existe, même dans la béatitude, de multiples façons de traduire en acte l'amour préférentiel qu'on a pour Dieu. Et d'ailleurs, les saints au ciel ne font pas tous la même chose. Sinon, je pense pas qu'ils s'ennuieraient parce qu'ils sont quand même dans la béatitude, mais enfin, les saints au ciel ne sont pas des clones. Chacun traduit à sa manière l'amour préférentiel qu'il a de Dieu, et donc continue à poser des actes en vertu de son libre arbitre. Simplement, ils sont tous, dans la mesure où ils sont fixés quant à la fin ultime, ils sont tous bons et ne peuvent pas tomber dans le péché. Du reste, la possibilité d'agir bien ou mal n'appartient pas à l'essence du libre arbitre comme tel, pour saint Thomas. Notamment parce que sans ça, Dieu qui ne peut pas pécher serait privé de libre arbitre. À la limite que les bienheureux ne soient privés de libre arbitre, ce serait déjà un peu embêtant. Mais Dieu, ce serait quand même vraiment très très embêtant. Or, Dieu ne peut pas pécher, et pour autant, il fait ce qu'il veut. Le libre arbitre n'est donc pas indifféremment ouvert au bien ou au mal. De telle sorte que lorsqu'il se porte au mal, il va en fait contre sa nature. Et donc la possibilité de pécher n'appartient pas à l'essence du libre arbitre. Pas plus qu'on ne définit une puissance par son aptitude à la défaillance, ce qui serait quand même un peu bizarre comme idée. De même que les fausses notes n'entrent pas dans la définition de l'habitus du musicien, pareillement, le pouvoir de pécher ne fait pas partie de l'essence du libre arbitre. Non pas que le bon musicien ne puisse pas de temps en temps faire des fausses notes, mais ça ne fait pas partie de l'essence de son habitus de musicien. Au contraire, c'est une défaillance par rapport à son habitus de musicien. C'est une conséquence possible, mais ça n'est pas l'essence de son habitus. Mais c'est pareil pour le libre arbitre par rapport au péché. La possibilité de pécher, encore une fois, est une conséquence du libre arbitre et non pas sa condition. Ça va ça ou pas ? Ouais. Je sais plus, j'ai jusqu'à quelle heure ?
45-50.
Oh, on est large. On est large, large, large. Pourquoi maintenant, j'y reviens parce que je n'ai fait que l'esquisser d'une certaine manière tout à l'heure, pourquoi diable Dieu a-t-il donné aux hommes le libre arbitre ? Dans quel but Dieu a-t-il donné le libre arbitre à la créature rationnelle alors que cela inclut, au moins au titre de conséquence, la possibilité du péché et quand même de la damnation éternelle, qui n'est pas que une hypothèse gratuite et un chiffon rouge agité de manière pédagogique. Je ne suis pas balthazarien, comme vous l'aurez compris. Pourquoi prendre un tel risque ? Parce que c'est quand même un risque plutôt majeur. Je crois qu'on peut l'expliquer avec saint Thomas de plusieurs manières. D'abord en se rendant compte que la béatitude, c'est l'ultime aboutissement de l'alliance que Dieu a voulu nouer avec l'homme. Et en vertu de cette notion d'alliance, de cette réalité de l'alliance, à la libre décision divine d'introduire l'homme dans sa vie trinitaire, devait répondre la libre décision par laquelle l'homme y consent. Il en va du respect de la dignité de l'homme créé à l'image de Dieu, dont le libre arbitre est justement l'une des caractéristiques les plus expressives. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et qui est peut-être plus profonde, c'est que dans la béatitude, Dieu donne Dieu. Dans la béatitude, Dieu donne Dieu lui-même, en personne. En personne au pluriel, d'ailleurs, puisqu'il nous donne, il se donne comme Dieu et comme Dieu Trinité. Aussi, l'homme doit pouvoir répondre par le don en retour de ce qu'il a de plus intime, que nul ne peut donner à sa place. Or, ce que l'homme a de plus intime, qui correspondrait, si vous voulez, même si forcément le don est asymétrique entre Dieu et l'homme, au don que Dieu fait de sa propre personne à l'homme, eh bien, c'est qu'à l'homme de plus intime en lui, et que nul ne peut donner à sa place, c'est la libre disposition de son vouloir. Sinon, d'une certaine manière, l'échange de dons, si je puis dire, ne serait pas réciproque, quand bien même, de toute façon, il est déséquilibré, parce que d'un côté, c'est Dieu, et de l'autre côté, c'est l'homme. Mais analogiquement, il faut que l'homme puisse donner lui-même. Et lui-même, c'est son libre vouloir. Enfin, il appartient à la nature de l'amour de procéder du libre choix de sa volonté. Autant on peut imposer à autrui, et encore, la soumission ou l'obéissance extérieure, on ne peut pas imposer l'amour. La communion de l'amour ne s'impose pas, elle se propose à la volonté libre de la personne, ce qui implique que la personne ait le pouvoir réel de le repousser. Et il en va donc ainsi pour l'amour que Dieu attend de l'homme. Avec quand même ceci de particulier que la nature humaine a été créée de telle sorte qu'elle ne peut trouver son accomplissement que dans l'union à Dieu. C'est quand même une coordonnée un petit peu particulière. À quoi il faut ajouter que, et là aussi c'est quand même un peu important, que la grâce divine est nécessaire pour que l'homme puisse percevoir l'attrait pour la vie divine. S'il n'y a pas la grâce, l'homme ne peut pas percevoir cet attrait pour la vie divine. Il peut à la limite percevoir l'attrait de Dieu sous le rapport où il est le bien, si vous voulez, mais pas l'attrait de la participation à la vie divine, qui là nécessite la grâce. Reste que l'attirance pour le bien divin provoquée par la grâce ne peut s'exercer effectivement sur la volonté humaine que moyennant sa libre acceptation et donc la possibilité réelle de s'y soustraire. Ça va, ça ? Je reviens sur ma question de libre arbitre et de liberté de qualité. À la différence du libre arbitre, que j'ai appelé liberté de perfection tout à l'heure, mais c'est un peu la même chose, le terme d'ailleurs, enfin l'expression de liberté de qualité, on ne la trouve pas de mémoire chez saint Thomas lui-même. La réalité y est, mais pas forcément le terme, qu'on doit plutôt au père Pinkars, qui était un grand théologien dominicain, moraliste de Fribourg. Lisez-le, c'est très bien, le père Pinkars. En dépit d'un nom qui traduit, tout de même assez rigolo, mais enfin. Mais c'est comme ça. À la différence du libre arbitre, la liberté n'est pas une donnée de nature. La liberté, elle est le résultat d'une conquête progressive acquise dans le temps. Autant, on l'a vu, le libre arbitre consiste dans le pouvoir d'agir ou de ne pas agir, ou de poser tel acte de préférence à tel autre sans y être nécessité, donc liberté d'exercice, liberté de spécification. Mais la liberté proprement dite, c'est cette propriété en vertu de laquelle l'agent volontaire se porte par lui-même et sans entrave au bien que son intelligence juge lui convenir. Et donc là intervient le fait que qu'elle est orientée, qu'elle est polarisée par le bien. Et plus en profondeur, la liberté de qualité ou de perfection désigne cette capacité acquise grâce à laquelle une personne devient capable de choisir sans trop de résistance intérieure les biens les meilleurs, ceux qui vont dans le sens du bien absolu et de la réalisation intégrale de la vocation propre à chacun. Autrement dit, là où le libre arbitre est ou n'est pas, c'est une propriété métaphysique, une propriété anthropologique, la liberté, elle, comporte des degrés dans sa réalisation. Il y a du plus et du moins. Et donc le libre arbitre, caractérisé par l'indifférence dominatrice, est reçu en vue de développer progressivement la liberté de perfection. Le libre arbitre est un instrument destiné à promouvoir cette qualité morale qu'est la liberté de perfection. Vous voyez, dans un cas, on est dans une propriété métaphysique ou anthropologique, la libre arbitre. Dans l'autre cas, on est dans une qualité morale, la liberté, et donc acquise, et qui se déploie dans le temps. La conquête de la liberté de perfection, elle s'enracine tout d'abord dans la vérité du jugement d'une intelligence capable de discerner les biens véritables et leur hiérarchie. Pour un chrétien, c'est la foi, dans ce cas, qui constitue le premier vecteur de cette liberté intérieure. La vérité vous rendra libre. Saint Jean le dit, mais l'explication métaphysique est là, d'une certaine manière. Mais il ne suffit pas en même temps de connaître le bien véritable pour s'y porter librement. Le jeune homme riche a compris intellectuellement que suivre Jésus était le seul chemin de la vie éternelle. Lui manquait cependant la liberté intérieure pour s'y conformer, prisonnier qu'il était de ses richesses. La liberté de perfection suppose donc l'affranchissement progressif de ces liens ou de ces inclinations qui nous empêchent de faire ce que nous voulons vraiment. Et cette liberté intérieure, elle s'acquiert au terme d'un processus d'unification morale et spirituelle de la personne qui, ayant surmonté l'opposition de ses tendances, est parvenue progressivement à les harmoniser, ces tendances, dans la recherche des biens véritables. Non pas à les nier d'ailleurs. Là aussi, saint Thomas est à l'opposé de tout un tas de morales qui viseraient au fond à combattre ou anéantir les inclinations ou les passions. Non, pour saint Thomas, au contraire, il faut s'en servir des inclinations et des passions et les faire servir comme ressources d'énergie qui, orientées par l'intelligence, vont donner la force de se porter vers le bien et de l'accomplir effectivement. Là-dedans, par exemple, je parle du fait que la passion de colère, non seulement elle n'est pas mauvaise en soi, elle est neutre moralement, mais elle peut et elle doit servir au bien, et le doux est celui qui précisément utilise le réservoir d'énergie que lui procure la colère et l'ajuste de manière à produire le bien d'une personne ou d'une situation. Et donc tout ça, c'est au fond le fruit des efforts vertueux que nous entreprenons sous la mouvance de la charité. Par l'exercice du libre arbitre, qui choisit de poser des actes bons, nous approfondissons progressivement notre goût du bien véritable, et partant, nous facilitons des choix ultérieurs convergeant vers la même direction. Vous le savez, dans la tradition issue d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin, la vertu, alors il y a les vertus infuses, ça c'est autre chose, mais la vertu acquise, elle se produit par répétition d'actes qui vont dans le même sens, et la répétition d'actes qui vont dans le même sens produit progressivement une disposition stable à agir avec aisance, avec joie et de manière créative dans une situation donnée. D'accord ? C'est ça la vertu. Par la succession des actes bons que nous posons, nous produisons progressivement en nous des inclinations qui nous rendent plus fermes, plus vigoureux dans la poursuite de ce que nous voulons vraiment, tout en nous procurant, encore une fois, aisance et joie dans l'exercice même de ces actes. Ça, c'est vraiment la grande différence entre saint Thomas et Kant. Enfin, il y en a mille, hein, des grandes différences entre saint Thomas et Kant. Mais en particulier, le fait que, pour saint Thomas, d'une certaine manière, plus je prends de plaisir et de joie à un acte, plus je suis vertueux. Contrairement à ce que... Alors, c'est un peu une vulgate kantienne, mais contrairement à ce que voudrait la vulgate kantienne selon laquelle plus ça coûte, mieux c'est, pour saint Thomas, c'est l'inverse qui est vrai. Moins ça coûte, plus ça veut dire que j'ai atteint, en effet, une certaine vertu qui me permet, en effet, de poser un acte parfait avec de l'aisance, de la joie, et en prenant plaisir à le faire. C'est donc tout le travail des vertus sous la grâce qui est la vie morale chrétienne. Et donc la liberté, en fait... Alors, il y a eu tout un débat à une époque pour savoir si, justement, le fait que des habitus se créent progressivement, fussent-ils vertueux, n'était pas une entrave à la liberté. Évidemment non. Les habitus permettent justement à la liberté d'être plus créative. Notamment parce que parfois on a tendance à croire que l'habitus est une habitude et donc une routine mécanique. En réalité, non. Elle permet, dans une situation donnée, d'être créatif, de savoir quel est l'acte qu'il faut poser, qui n'est pas exactement celui que nous avons posé par le passé, mais parce qu'on a acquis la vertu, un peu, si vous voulez, comme le très bon musicien qui n'est pas seulement capable de jouer les partitions qu'il a déjà apprises, mais au bout d'un moment, parce qu'il a réellement acquis la vertu de musicien, et ben il peut improviser, au fond, et ce sera quand même génial. Et ben moralement, c'est ce que nous donnent les vertus morales pour saint Thomas. D'accord. Et j'y arrive justement, ça tombe bien, mon truc est vaguement cohérent. La liberté, puissance de faire du nouveau. Saint Thomas d'Aquin compare parfois. Vous n'êtes pas complètement mort encore ? Un peu, mais ça va ? Vous allez sûr ? Ok. Accrochez-vous, mais il ne reste plus grand-chose. Saint Thomas d'Aquin compare parfois l'acte libre de l'homme à la création par Dieu. Alors, certes, l'agir humain ne consiste pas à faire surgir l'être à partir du néant. Il se déploie, cet agir humain, à partir de potentialités qui préexistent dans la nature humaine et dans le monde, de telle sorte que le champ d'extension de notre agir est quand même limité. Pourtant, même dans ce cadre restreint, l'agent humain dispose d'un prodigieux pouvoir d'invention et d'innovation qui fait écho, de manière analogique, à celui du Créateur, à celui de Dieu lui-même. De ce point de vue-là, il est très important de comprendre que les exigences morales qui s'imposent à notre agir ne restreignent pas notre inventivité, ni ne réduisent notre libre arbitre. Et du reste, les confesseurs le savent, quoi qu'il en soit des détours compliqués que le pécheur emprunte pour parvenir à ses fins, le péché, en fin de course, est très loin d'être inventif. Il est répétitif, banal, pas très créatif. D'ailleurs, vous vous en rendez compte en général parce que vous confessez souvent la même chose. Béni soyez-vous si vous répétez tout le temps la même chose, personne ne vous demande d'innover. Le confesseur ne se dit pas en vous accueillant « Étonne-moi ». Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais, cela dit, il y a quelque chose d'assez profond à comprendre qu'en effet, le péché n'est jamais créatif, en réalité. L'acte bon, l'acte vertueux est créatif. Les normes, pour reprendre une expression que là j'emprunte à Chesterton, mais qui d'une certaine manière était assez irriguée par saint Thomas là-dessus, d'ailleurs écrit un bouquin sur saint Thomas que je vous conseille, c'est une bonne introduction pour ceux qui ne connaissent pas du tout saint Thomas. Je crois que c'est saint Thomas du Créateur ou un truc comme ça. Les normes morales, comme les dogmes, saint Chesterton le dit à propos des dogmes, les normes morales, comme des dogmes, ne sont pas les murs d'une prison, mais ceux d'une cour de récréation, dans l'enceinte desquelles la liberté peut donner sa vraie mesure. Et ça, je crois que c'est très vrai. En réalité, les normes morales, elles nous permettent non seulement d'agir bien, mais d'agir de manière beaucoup plus inventive que si elles n'existaient pas. D'ailleurs, en général, l'exigence morale ne nous impose pas une seule et unique décision bonne. Certes, il arrive dans quelques cas extrêmes qu'une seule, une seule décision soit la bonne ou la meilleure, mais c'est loin d'être toujours le cas. De même que le vouloir de Dieu, pourtant fixé dans le bien unique qu'il est par identité, est capable de concevoir une infinité de mondes possibles, tous également bons en leur ordre, pareillement, un saint conserve le pouvoir de décider plusieurs actions également bonnes. Il n'y a pas une seule décision. Si vous voulez, le bien ne nous détermine pas ad unum, mais ad plura, pour être un peu pédant. Mais en ces lieux, on peut se le permettre. Il existe donc plusieurs excellents chemins entre lesquels l'homme peut librement choisir pour traduire en acte son amour pour Dieu et pour les hommes. Et heureusement, c'est ce qui fait d'ailleurs que chaque saint est unique en son genre. D'une certaine manière, tous les saints se ressemblent parce que tous les saints ressemblent au Christ, mais ils sont tous différents parce que il y a plein de bons chemins, plein d'excellents chemins. On n'est pas déterminé à de nous. Et en cela, l'agir humain, d'ailleurs, diffère radicalement du comportement animal. Saint Thomas compare toujours les deux. L'animal se borne à exécuter servilement les plans d'action que la nature conçoit pour lui, sous le mode de l'instinct. Au contraire, en vertu de son libre jugement personnel, l'homme peut faire surgir de l'inédit cette action que ne déterminait pas ce qui la précédait. Alors que pour un animal, d'une certaine manière, tout est déterminé par ce qui le précédait. Là, non. L'homme peut faire surgir de l'inédit, du vraiment nouveau. Et puis, Dieu n'attend pas forcément que l'homme, en chaque circonstance, accomplisse un plan d'action qu'il aurait de toute éternité conçu dans ses moindres détails pour lui. Bien souvent, faire la volonté de Dieu revient tout simplement à accomplir ce que nous suggère notre prudence, informée par la charité et ressourcée dans la prière. Dans le Siracide, au chapitre 15, verset 14, il y a ce verset très souvent cité par saint Thomas d'Aquin. « Au commencement, Dieu a créé l'homme et l'a remis entre les mains de son conseil. » Et le « son conseil » porte le référence, c'est le conseil de l'homme, pas le conseil de Dieu. Donc oui, le plus souvent, faire la volonté de Dieu, ça consiste à accomplir ce que nous suggère notre prudence, informée par la charité, ressourcée dans la prière. Certes, notre délibération prudentielle inspirée par la charité doit tenir compte de ce qu'on sait par ailleurs de la volonté divine signifiée à minima dans les commandements divins, et puis par tout ce qu'exigent les circonstances et puis notre devoir d'État. Je suis père de famille, je suis religieux, je suis machin, etc. Bon. Mais souvent, Dieu ne cherche pas à nous en dire tellement davantage. Dieu mise sur notre inventivité. De quoi nous libérer de l'angoisse, de l'idée angoissante selon laquelle l'homme serait, pour paraphraser, je ne sais plus qui d'ailleurs, un personnage en quête d'un scénario divin. C'est qui ça déjà, le truc en quête d'auteur ? Personnage en quête d'auteur, c'est qui déjà ? Pirandello, tout simplement, voilà. J'ai vu un trou. On a parfois cette idée angoissante quand on est chrétien, selon laquelle l'homme serait un personnage en quête d'un scénario divin dont il devrait guetter anxieusement les signes avant d'agir. Qu'est-ce que Dieu a voulu dans son scénario et il faut que je guette des signes pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Mais l'homme n'est pas seulement acteur, il est co-scénariste des plans de la Providence. C'est sa dignité. Sous ce rapport, le libre arbitre est l'instrument que Dieu a donné à l'homme pour qu'il puisse donner libre cours à la sage inventivité de sa charité. Cette créativité d'un amour intelligent par laquelle il est à l'image de Dieu. Je conclue, parce qu'il faut, et parce qu'il est quasi l'heure de conclure, par un petit prolongement contemporain de la doctrine thomasienne de la liberté. Vous savez peut-être, pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu l'histoire de la philosophie, et notamment l'histoire de la philosophie médiévale, que j'ai le bonheur d'enseigner, le malheur pour mes étudiants, qui sont des frères, donc ils ne disent rien parce qu'ils sont extrêmement charitables, mais à un demi-siècle d'écart, le franciscain Guillaume d'Ockham s'est opposé à Thomas d'Aquin sur la question de la liberté divine. Spoiler, il avait tort. Mais... Quel est l'enjeu sur la liberté divine ? Thomas d'Aquin conçoit la liberté divine comme, d'une certaine manière, bornée par sa propre sagesse et sa propre bonté. D'accord ? C'est la distinction entre puissance absolue, ce que Dieu pourrait faire dans l'absolu, compte tenu du fait qu'il est tout-puissant, et puissance ordonnée. Puissance absolue d'un côté, puissance ordonnée, c'est-à-dire ce que Dieu fait en réalité parce qu'il agit toujours en cohérence avec sa sagesse et sa bonté. Ça, c'est la position de saint Thomas sur la liberté divine. Et Ockham, lui, afin d'accentuer la transcendance de la liberté divine et de dire que d'une certaine manière, rien ne peut entraver la liberté divine, même pas sa sagesse et sa bonté, affirme très fortement la puissance absolue de Dieu qui peut tout faire, jusque et y compris ce qui serait contraire à sa sagesse et à sa bonté. Ce qui va avoir des prolongements immenses chez Hume, par exemple. Concrètement, c'est une laïcisation, mais Hume, l'idée que, au fond, le lien de causalité, on détruit le lien de causalité en affirmant que c'est pas parce que depuis 2000 ans ou depuis plus longtemps que ça, le soleil se lève tous les matins qu'il va continuer à se lever demain matin. C'est l'idée que ça dérive exactement de Occam, qui nous dit qu'au fond, Dieu peut se contredire. Sinon, sa liberté serait bornée. Eh bien ça, la modernité a en fait transposé à l'homme ce débat médiéval. La plupart de nos contemporains conçoivent la liberté humaine comme celle que Dieu a chez Occam, c'est-à-dire comme un pur pouvoir de création, délié de toute considération de la nature humaine, ou de la bonté ou de la sagesse considérées comme des réalités objectives extérieures au pouvoir souverain de la volonté humaine. Là, il y a vraiment une transposition d'un débat au départ théologique à l'anthropologie. J'ai le pouvoir de... En fait, j'ai un pouvoir, pour un moderne, j'ai un pouvoir proprement créateur, et un pouvoir créateur à la manière d'Occam, c'est-à-dire délié de toute norme dans ma propre nature, ou dans la sagesse, ou dans la bonté inhérente aux choses mêmes, et sur laquelle je n'ai pas, sur laquelle je n'aurais pas normalement de pouvoir. De ce point de vue-là, la conclusion vaut ce qu'elle vaut, elle est un peu kitsch, mais c'est pas grave. Je pense quand même, en réalité c'est quand même vrai, même si ce serait difficile à défendre, que beaucoup de nos débats sociétaux, bioéthiques et même écologiques gagneraient à retrouver le sens de cette liberté de perfection, à la fois conditionnée et orientée, qui seule fait grandir l'homme et lui permet de répondre à sa vocation. Je vous remercie pour votre patience. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des objections pour les plus intrépides parmi vous? Oui.
Une question. Vous avez évoqué assez rapidement l'idée d'une harmonisation des appétits sensibles. Et je crois encore plus ou beaucoup de préférence l'idée d'une sensibilisation même de la volonté dans sa visée du bien suprême. Et c'est vrai que je pose souvent des questions sur les saints, mais ce qui est très frappant dans les écrits de saints, de manière très générale, c'est le sentiment que ce désir de Dieu, cette volonté, cette tension vers le bien suprême, très tôt identifié comme étant Dieu, est aussi d'emblée très sensible, enfin exprimé de manière sensible. Et du coup, ma question, c'est comment rendre compte du fait que, a priori, c'est tout de même un élan raisonnable qui identifie ce bien suprême en premier lieu, et comment est-ce que Thomas éventuellement explique la sensibilisation progressive de
Dieu? Alors, ça pourrait faire l'objet d'une conférence en soi, mais le. Bon, d'abord, il y a cette idée, pour reposer un peu le truc, que contrairement à ce qu'on a souvent appelé l'intellectualisme de saint Thomas, qui est vrai sous un certain rapport, hein, mais chez saint Thomas, l'homme est vraiment une personne corporelle, et donc il y a une intégration progressive des appétits sensibles, des passions, de manière à ce qu'elles servent, à ce qu'elles viennent... à la fois colorer et même servir, par l'énergie qu'elle procure, nos actes, même intellectuels ou volontaires. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le fait que le désir de Dieu chez les saints soit souvent manifesté dans des catégories qui sont des catégories sensibles, ne veut pas dire que au fond d'eux, si je puis dire, ce ne soit pas une adhésion de la volonté et de l'intelligence. Et du reste, ça se poursuit chez Thomas jusque dans la vision béatifique, qui est d'abord un acte de l'intelligence. Mais, ensuite, et ça, je digresse un petit peu, mais enfin non, j'essaie de répondre surtout à votre question. Je crois qu'il est important non pas de jouer les sociologues de pacotille qui savent toujours mieux que ce que les personnes qui savent toujours mieux que les personnes ce pourquoi elles agissent et ce que cache le discours explicite que moi je vais t'expliquer parce que je suis vachement plus intelligent. Mais malgré tout, dans la vie des saints, il n'est pas complètement absurde de chercher sous le revêtement de l'expression ce que peut être l'élan en fait de la volonté et de l'intelligence. Chez saint Thomas, c'est très clair, puisque chez saint Thomas, dès tout petit, à l'abbaye du Mont Cassin, où il avait été donné comme oblat à 6 ans, quelle belle époque, il allait voir l'abbé du Mont Cassin en lui disant « Qui est Dieu? Qui est Dieu? Quis est Deus ?» Donc, il y en a qui... Il y en a qui sont un peu précoces dans leur vocation. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire le fait que, d'un côté, notre appétit rationnel doit... Enfin, que nos appétits sensibles doivent être subsumés, si je puis dire. C'est un peu égayant de dire ça, mais... dans notre appétit rationnel et réciproquement, c'est de dire qu'au fond, encore une fois... Un acte vraiment vertueux doit engager tout l'homme. Et justement, ça, on le voit vraiment chez les saints. C'est-à-dire qu'il y a un acte vraiment de l'intelligence et de la volonté, mais avec toute une sensibilité frémissante et extrêmement personnalisée de surcroît. Et ça, ça vient des passions, ça vient de l'histoire personnelle, ça vient de machin, etc. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est à encourager parce que, encore une fois, le bon Dieu ne recherche pas des saints qui soient des clones. Le bon Dieu recherche que l'on soit des saints avec toute notre personnalité. Et donc avec nos passions, avec. Typiquement, là, dans le bouquin sur la douceur, c'est pas une manière de faire de nouveau de la pub, mais c'est juste que du coup, je l'ai à peu près en tête. Quand on voit les grands docteurs chrétiens de la douceur, Fénelon, saint François de Sales, saint Jean Chrysostome, le père Régamec, qui était un dominicain du XXe siècle, c'est presque tous des tempéraments colériques au départ. Et donc ils ont appris à devenir saints sur le fondement de ça, en ne le bridant pas, mais en le réorientant pour servir le bien dans la perspective qui était la leur. Je suis pas sûr d'être extrêmement clair dans ma réponse, mais ça va à peu près. D'autres questions, remarques?
C'est une question sur les bienheureux au ciel.
Ouais.
S'ils ont effectivement le libre arbitre, et si l'argument qui fait qu'ils ne peuvent pas repêcher, c'est qu'ils ont l'évidence de la vision de Dieu et du fait que le souverain bien, c'est lui. À ce moment-là, comment on explique le péché des anges? Ou plutôt, comment, connaissant le péché des anges, on fait pour empêcher, entre guillemets, les saints de repêcher et de tout relancer pour un tour?
D'abord, la question du péché de l'ange, c'est là aussi des générations de théologiens se sont écharpés là-dessus, y compris entre thomistes. Ce qui fait que le bienheureux fixé en Dieu ne peut pas pécher, la différence par rapport au péché de l'ange, c'est que l'ange n'est pas créé d'emblée dans la béatitude. Il y a l'instant de sa création et l'instant immédiatement suivant dans lequel il se prononce pour ou contre, mais au fond il se prononce pour ou contre Dieu sans en avoir l'évidence, parce que l'évidence, ce serait la vision béatifique. Là, il en a une connaissance notionnelle, si vous voulez. De la même manière que, d'une certaine manière, un homme qui ne bénéficierait pas de la révélation pourrait avoir une connaissance notionnelle du souverain bien et être attiré par lui ou le refuser. Mais une connaissance notionnelle, ça ne suffit pas à fonder une évidence telle que on ne puisse plus s'y soustraire. Ça, au fond, votre question rebondit avec la précédente. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des êtres pour lesquels l'évidence notionnelle suffit. Contrairement à chez Socrate, où le péché est toujours une erreur, chez nous, c'est pas seulement une erreur, c'est pas forcément une erreur. On peut avoir un jugement vrai, mais ensuite, ça ne, il n'y a pas une attraction suffisante parce qu'on n'en a pas fait, on en a pas fait l'expérience de tout notre être, si vous voulez. Et d'ailleurs, on le voit dans la vie de foi de tous les jours. Je veux dire par là que, à un moment ou à un autre dans une vie chrétienne, on passe d'une idée notionnelle des vérités de foi à une expérience de ces mêmes vérités qui ne sont pas supprimées dans le fait qu'elles sont expérimentées, au contraire. Mais je pense qu'il y a quelque chose de ça qui explique le péché de l'ange par opposition et qui explique que, au contraire, les bienheureux ne peuvent pas retomber dans le péché. Et puis, ce qui fait que par ailleurs l'ange ensuite ne peut pas retourner en arrière, c'est qu'il a posé justement son acte en parfaite connaissance de cause. Nous, malgré tout, même au strict plan notionnel, tant qu'on est sur cette terre, on ne le pose pas en parfaite connaissance de cause, notre acte d'adhésion pour ou contre Dieu. On le pose dans l'obscurité de la foi, ou dans l'obscurité de même pas la foi. Ouais.
Merci, Audrey. J'aimerais une précision sur le psychologie. Enfin, vous avez dit la volonté est un appétit rationnel. Donc, à peu près au même plan que les appétits sensibles, puis qui, dans le jugement pratique, viendrait subsumer les deux.
Ouais.
Ou est-ce que c'est, il y a un appétit sensible et aussi ce que la raison dit qui est bon, donc un appétit rationnel. Et ensuite, donc la raison un peu notionnelle, et ensuite il y a une raison pratique qui intervient dans le jugement de la volonté et qui prend les deux.
J'aurais tendance à répondre que pour saint Thomas, il y a vraiment deux foyers distincts de désir que sont les appétits rationnels et les appétits sensibles, qui sont au même plan. Mais sachant que les appétits rationnels vont venir informer les appétits sensibles. Au fond, l'analogie très imparfaite qu'on peut prendre, ce serait celle tout simplement de l'union de l'âme à la matière, de l'union de l'âme et du corps, où l'âme vient informer la matière de telle manière que, en réalité, à la fois d'une certaine manière, ils sont sur le même plan, et en même temps, c'est quand même l'âme qui informe la matière et pas l'inverse. Là, je dirais que les appétits rationnels sont dans ce type-là de relation avec les appétits sensibles. Je ne sais pas si ça répond totalement à votre question.
Et du coup, la volonté est un appétit.
La volonté, c'est l'appétit rationnel dès lors qu'il a, d'une certaine manière, l'appétit rationnel dès lors qu'il a informé le. Ouais, je dirais ça.
Mais quand l'appétit sensible informe l'appétit rationnel
dans
le cas de la passion, y a-t-il volonté ?
Oui, bien sûr.
Du coup, j'avais du mal parce que. Vous voyez ce que je veux dire, si c'est toujours l'appétit rationnel, la volonté est toujours l'appétit rationnel,
tant
qu'il informe l'appétit sensible et que du coup ça se transforme dans les actes, dans le cas inverse où c'est l'appétit sensible.
Ah oui, non, d'accord, j'avais pas saisi le cas inverse. Mais justement, une des choses que j'ai essayé, visiblement pas assez bien, de vous expliquer, c'est que ça ne se produisait jamais. Je veux dire par là que les appétits sensibles, même lorsqu'ils ont l'apparence de prendre le dessus, en réalité, c'est toujours un appétit rationnel, mal fichu, qui opère la détermination.
D'accord, c'est que les appétits sensibles peuvent informer les appétits rationnels par la médiation de l'évolution du jugement.
Ouais. D'autres ? Ouais, je sais pas dans quel sens.
J'avais une
derrière aussi, mais je sais pas si.
J'avais une citation de Montesquieu en tête à laquelle j'aimerais que vous réagissiez.
Oui.
Parce qu'on a un peu oublié aujourd'hui les définitions de la liberté qui impliquent quand même une norme.
Oui.
Et la définition de la liberté que donne Montesquieu dans l'esprit des lois, c'est la suivante. La liberté consiste à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir.
Oui.
J'aimerais que vous disiez ce que vous pensez de l'héritage chrétien-thomiste qu'il peut y avoir dans une phrase comme ça. Dans l'idée de devoir faire quelque chose.
Oui, alors. Si on veut vraiment trouver quelque chose de Thomiste là-dedans, ce qui me paraît, au moins au plan généalogique, assez improbable, ce serait d'une certaine manière l'idée que, dans la mesure où notre fin ultime s'impose, en effet, la liberté consiste à pouvoir faire ce que l'on doit faire, c'est-à-dire rejoindre notre fin ultime. Ceci dit, j'y verrais plutôt un pré-kantisme qu'un post-thomisme. Parce que pouvoir faire ce que l'on doit faire, ça sonne à mes oreilles plus kantien que thomasien. Mais ceci dit, si je veux vraiment sauver la proposition, ce qui là est très jésuite comme formulation, je vais sauver la proposition de l'adversaire, ce serait en effet... ce serait quand même que en effet il y a une sorte de primauté du pouvoir quand même chez Montesquieu visiblement. C'est un pouvoir faire, le devoir arrive en second. Et sous ce rapport, il est quand même d'une certaine manière l'héritier de la tradition aristotélicienne et thomasienne où la norme arrive toujours en second par rapport à l'énergéia, la puissance d'agir du sujet. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais sachant que c'est toujours un peu difficile de se livrer à des acrobaties généalogiques sur des trucs pareils, mais il y avait deux questions derrière, deux jeunes filles, mais je ne sais plus lesquelles. Ah oui, parce que c'est peut-être... Moi je suis disponible, mais vous faites comme vous voulez.